Jules Sandeau, Richard. Vers l'automne de 1830, par une soirée froide et pluvieuse, une chaise de poste qui suivait la route d'Angers à Nantes quitta brusquement le grand chemin pour prendre un sentier enfoncé dans les terres. Il faisait une affreuse nuit. Le vent sifflait à travers les arbres, les rameaux dépouillés craquaient, les orfraies criaient dans le creux des chênes. À chaque instant, les chevaux, découragés, refusaient d'avancer. Le postillon jurait et la chaise, battue par la tourmente, menaçait de s'abîmer dans les ornières des sentiers effondrés. Pas une étoile ne brillait au ciel, pas une lumière dans le paysage. Des aboiements plaintifs qui se mêlaient à longs intervalles aux gémissements de la bise révélaient seuls quelques habitations éloignées. Au milieu de cette scène désolée, la voiture était à l'intérieur silencieuse comme un tombeau. Pas un mouvement, pas un bruit de voix qui trahit au-dedans l'inquiétude ou l'impatience. On eût dit le voyage d'un mort gagnant sa demeure dernière. Enfin, au bout de quelques heures, les chevaux galopèrent sur un terrain ferme et sonore entre une double rangée de platanes. Le fouet du postillon donna joyeusement la fanfare d'arrivée et la chaise s'arrêta bientôt devant le perron du vieux château de Beaumeillan. À l'immobilité du manoir, il était aisé de voir qu'on n'y attendait personne. Ce fut le postillon qui ouvrit la portière et abaissa le marchepied. Une femme de chambre s'élança la première et, pour l'aider à descendre, offrit respectueusement sa main à une femme pâle et languissante. Cependant, les fenêtres s'étaient illuminées et les serviteurs accourus avec des flambeaux reconnurent leur maîtresse à tous, la comtesse de Beaumeillan. Elle était bien changée, et chacun, en l'apercevant, ne put réprimer un mouvement de douloureux étonnement. Il est vrai qu'il ne l'avait pas vue depuis près de 2 ans, mais ces 2 années avaient suffi pour flétrir à jamais ce qui restait en elle de beauté. Elle monta lentement les degrés du pierron, et coupant court à l'embrassement de ses gens, elle demanda son fils. Au même instant, un grand et beau jeune homme la reçut sur son cœur et l'emporta presque évanoui entre ses bras. En revenant à elle, Madame de Beaumeillan vit à ses genoux son fils qui la regardait avec amour. Elle prit entre ses mains cette blonde tête et la pressant contre son sein par une étreinte convulsive, elle l'inonda de ses larmes. Richard pleurait aussi, et déjà au transport de sa joie se mêlaient des pensées amères. Car, malgré sa grande jeunesse et son ignorance des choses de la vie, il comprenait vaguement que les pleurs qu'il voyait couler avaient une autre source que l'attendrissement du retour. Sous ses traits ravagés, moins par le temps que par la douleur, il pressentait une âme mortellement atteinte qui revenait au gîte pour se reposer et s'éteindre. Ce jeune homme était grave avant l'âge. Né au milieu des orages d'une union tourmentée, il avait assisté enfant au plus lamentable spectacle qui se puisse donner autour d'un berceau. Des scènes mystérieuses, étranges, mêlées de sanglots, de colère et de haine, avaient grondé comme la foudre sur ses premiers ans. Il en gardait encore un souvenir rempli d'épouvante. Baigné par les pleurs de sa mère, sans un sourire de son père pour le réchauffer, il s'était élevé tristement, pareil à ces plantes qui croissent dans les coins humides et sombres. On ne sait pas quel trouble funeste et quelle précoce expérience jettent dans le cœur des enfants les luttes du foyer et de la division des époux. Heureux ceux qui, nés entre 2 baisers, ont pu grandir dans l'atmosphère des tendresses mutuelles. Un jour, celui dont nous parlons vit sa mère partir seule, éplorée comme si se fût agi d'un long voyage et d'une séparation éternelle. Le voyage fut long en effet. Elle avait promis un prompt retour, mais son fils l'attendait vainement. Elle ne revint plus que de loin en loin pour le voir un instant, l'embrasser à la hâte et s'enfuir de ces lieux d'où elle semblait s'exiler. Richard resta près de son père, mais son cœur tout entier avait suivi l'absente. Il tenait de sa mère une âme délicate et tendre qu'intimidait la nature froide et chagrine du comte de Beaumeillan. Trop jeune pour voir, avoir pu comprendre le drame qui s'était joué près de lui, il n'osait décider quelle était la victime. Mais il y avait en lui un instinct inavoué qui accusait soudainement le comte. Et cet instinct des fils qui voient pleurer leur mère. Sa sensibilité s'exalta dans la solitude. Ses facultés expansives, comprimées par ses alentours, s'exercèrent sur ses souvenirs. Il se rappelait le noble et doux visage qui s'était fait de fois pencher sur son berceau avec un pâle sourire. Il peupla son cœur de cette image désolée. En grandissant, cette affection prit un caractère romanesque et passionné. Madame de Beauveillan revenait à de longs intervalles. Elle venait à la dérobée, oh jamais au château, mais dans le village voisin, où elle faisait appeler son fils. Richard accourait, et c'était, sous l'humble toit qui abritait tant de bonheur, d'indicibles transports et des tendresses ineffables. Ces instants étaient courts, mais enivrants. Plus d'une fois, pour les prolonger, la jeune mère demeura cachée plusieurs jours au village. On trouvait un prétexte pour expliquer les absences de Richard au château, et ses jours s'enfuyaient en heures charmantes. Ces apparitions mystérieuses, ce bonheur si permis et si légitime, obligé pourtant de se cacher, cette jeune proscrite qui venait en secret embrasser son enfant, ces effusions d'autant plus vives qu'il fallait épancher en quelques heures l'amour d'une année tout entière, tous ces incidents poétiques d'une affection ordinairement si paisible transformèrent et frappèrent singulièrement l'imagination de Richard et développèrent en lui un sentiment plus ardent et plus exalté que ne sont généralement les affections de la famille. Et il avait 15 ans quand son père mourut. Depuis le départ de Madame de Beaumeillan, le comte n'avait pas prononcé même devant son fils le nom de sa femme. Et telle était à cet égard l'austérité de son silence que jamais Richard n'avait osé l'interroger ni demander pourquoi la place de sa mère restait vide au foyer. Il mourut comme il avait vécu, inflexible devant la mort comme il l'avait été devant la vie, emportant avec lui le secret de son indulgence ou de son repentir. Richard le pleura. Mais dans sa douleur, il ne put étouffer je ne sais quel sentiment, car je n'oserais dire que ce fut un sentiment de joie, en songeant qu'entre sa mère et lui, il n'était désormais plus d'obstacle. Il semblait en effet que leurs épreuves étaient finies, et qu'affranchis des impressions funèbres que la mort laisse après elle, ils allaient réaliser tous deux le rêve caressé dans l'absence. Il en arriva autrement. Madame de Beaumeillan sentait déjà les atteintes du mal que lui causait sa tombe. Elle était sombre, inquiète, préoccupée. La présence de son fils, cette joie si longtemps souhaitée, paraissait la toucher à peine. Elle s'efforçait de lui sourire et se cachait pour pleurer. Oh, ce n'était pas le souvenir du comte de Beaumeillan qui la troublait ainsi. Quelques semaines à peine avaient passé sur son retour, qu'elle partit une fois encore, Et vainement Richard supplia pour l'accompagner. Elle s'éloigna seule, promettant comme autrefois de bientôt revenir, et comme autrefois des jours et des mois s'écoulèrent sans la ramener à son fils. Elle écrivit, mais ses lettres se ressentaient du mauvais état de son âme. Elle imagina des prétextes pour expliquer cette absence nouvelle. Mais Richard se plaignait dans son cœur. Enfin, elle revint, cette fois pour ne plus partir, et son fils la reçut avec adoration, car il est à remarquer que leur fils les aime d'un amour spécial, ces pauvres égarés, comme s'ils comprenaient qu'ils doivent être le dernier refuge de leur mère et qu'ils resteront seuls à les consoler. « Mon fils, mon enfant, mon dernier espoir !» disait-elle. « Oh, ma mère !» répondait le jeune homme en courant de pieux baisers les mains de l'infortuné. « Restez près de moi, ne me quittez plus. Si vous avez des peines que je ne puisse entendre, pleurez et nous pleurons ensemble. Mon amour vous guérira peut-être. Restez, ne vous séparons plus. » La mort seule les sépara. Mais la cruelle ne se vit pas attendre. En moins de 2 ans, elle eut accompli son œuvre. Durant ces 2 années, qui ne furent pour Madame de Beauméant qu'une longue agonie, Richard essaya vainement de réveiller en elle l'espérance et la vie. Vainement, il l'entoura de tout ce que la sollicitude la plus ardente peut suggérer de plus tendre et de plus assidu. Elle succombait à un mal dont rien ne pouvait la distraire. Elle-même tenta de retremper son cœur dans l'amour maternel, mais trop d'orages l'avaient dévasté pour qu'un sentiment heureux et calme pût jamais y fleurir. Sans doute, quand la passion n'a plus que des plages arides, il serait doux alors de revenir impunément aux sources des affections permises. Mais cela serait trop facile, et Dieu n'a pas voulu qu'il en fût ainsi. Quand Madame de Beauméant trouva sous sa main ce bonheur trop longtemps négligé, elle se sentit inhabile à le goûter et à en jouir. Ni le silence des champs, ni la tendresse exaltée de son fils, ni la paix du toit domestique ne purent amortir la tristesse qui la consumait. Elle s'éteignait lentement dans un mortel ennui, punition tardive mais inévitable de toutes ces imaginations qui ont traduit en aventure la grave histoire de la vie. Celle-ci était atteinte d'un trait plus dur et plus acéré. Elle saignait d'une blessure large et profonde. Peut-être eut-elle allégé son désespoir en le racontant. Mais c'était de ces douleurs que les mères ne sauraient confier à leurs enfants, et que les enfants devinrent sans oser les comprendre. Le jeune de Beauméant assista silencieusement au dénouement de cette destinée. Jamais une question n'effleura ses lèvres, jamais un reproche ne put se lire sur son visage. C'est à peine s'il osa s'interroger lui-même sur cette grande affliction qui ne pouvait guère ni consoler, ni guérir. Il ne savait rien de la vie. Jamais un écho, même affaibli des bruits du monde, n'était arrivé jusqu'à lui. Aussi ce drame qu'il avait vu commencer dans les pleurs et qu'il voyait s'achever dans les larmes, était-il pour lui plein d'un sombre mystère? Toutefois, ses instincts s'éveillèrent, et il y jetait de sinistres lueurs, et déjà, sous son amour filial, Richard sentait rentrer et remuer dans son sein une haine sourde et profonde qui ne savait à qui s'attaquer. Soumise et résignée en apparence, cet amour avait en soi tous les caractères de la passion, inquiet, tourmenté, douloureux et jaloux. Tout le trouble du cœur maternel avait passé dans ce jeune cœur. Durant les premiers mois qui suivirent son retour, Madame de Beaumeillan avait semblé tenir à la vie par quelque espérance. Chaque matin, l'arrivée du courrier qui rapportait les lettres de la ville colorait un instant la pâleur de son front. Le pas éloigné d'un cheval, une voiture filant sur le ruban poudreux qui blanchissait à l'horizon, un bruit inaccoutumé, l'aboiement des chiens dans le parc, tout l'agitait d'un tressaillement soudain. Elle espérait, elle attendait encore. Cependant, les jours suivirent les jours, les mois succédèrent aux mois sans apporter aucun changement. Lasse d'espérer et d'attendre, elle s'abandonna à sa douleur sans résister au courant. Le flot l'entraîna vite. Elle mourut entre les bras de Richard. Près d'expirer, elle le pressa ardemment sur son sein, et de ses lèvres qu'allait fermer la mort, un nom s'échappa dans le dernier soupir. Ce ne fut pas le nom de son fils. Quoique prévu depuis longtemps, ce coup frappa le jeune homme d'une morne stupeur. Son désespoir fut grave, silencieux, et plus réfléchi qu'on ne le rencontre à cet âge. Ici mais là un sentiment de curiosité sombre et jalouse qui en modéra l'expansion tout en redoublant l'amertume. Madame de Beaumeillan, vivante, il avait étouffé ce sentiment étrange qui n'osait pas alors s'expliquer à lui-même. Morte, il s'y livra tout entier, et resté seul dans ce château désert, il se prit à sonder avec une avide anxiété le mystère dont Madame de Beaumeillan venait d'emporter le secret au tombeau. Mais que pouvait-il comprendre? Élevé dans la solitude, il n'avait connu qu'un amour. Sa mère avait été tout le poème de sa jeunesse. Aucune peinture des passions mauvaises n'était parvenue jusqu'à lui. Il n'avait lu que quelques livres, récits honnêtes, imprégnés à chaque page du parfum des chastes tendresses. Vainement donc il fouilla l'inconnu, vainement il l'interrogea. Seulement une voix lui cria que la mort de sa mère lui laissait un être à haïr. Il avait recueilli sur les lèvres de la mourante le nom qui s'en était échappé à l'heure suprême. Il enferma ce nom dans son cœur et l'y scella du poids de sa haine. Pourquoi? Il n'aurait pu le dire. Mais ce nom, il le lisait partout. La nuit, il l'entendait résonner en notes lugubres et se mêler aux plaintes du vent. Dans ses rêves, il le voyait s'animer, prendre un corps et se dresser comme un fantôme vers lequel il tendait les bras en lui redemandant d'une voix éperdue l'amour et la vie de sa mère. Ce devint une préoccupation incessante, une obsession de tous les instants. Et sa douleur, au lieu de s'amollir, prit un caractère sauvage et presque farouche, mélange de regrets jaloux, de tendresse blessée et de sombre mélancolie. Ce n'était pas son fils, il le savait, hélas, que la mourante avait ardemment pressé sur son sein. Il l'avait perdu deux fois du même coup. Il la pleurait morte et vivante. Lui cependant qui n'avait aimé qu'elle. Il l'avait aimée, non de cette affection paisible qui s'assied au foyer des familles, mais de cet amour poétique et charmant que les amants connaissent seuls. Absente, il la suivait d'une pensée inquiète et déjà troublée. Chaque retour était une fête qui embaumait ses souvenirs. Il l'avait aimée comme un fils, plus que comme un amant. Ou plutôt, dans l'amour du fils, s'était fondu cet amour sans but qui, au matin de l'existence, tourmente toute jeunesse. Madame de Beaumeillan étant morte avant que l'âge et l'habitude eussent amorti les sentiments de Richard, l'imagination passionnée de cet enfant avait dû passer tout entière dans son désespoir. Quand la nuit brunissait les campagnes, Il gagnait l'asile où reposaient les restes chéris, et de là il s'oubliait de longues heures, s'attendrissant d'abord sur cette destinée sitôt ensevelie, pleurant sur elle et sur lui-même, mais retombant bientôt dans l'abîme des réflexions où le ramenait toujours, par une pente irrésistible, le curieux instinct de sa douleur. À cet instinct qu'il aiguillonnait sans cesse, et ne laissait ni paix ni trêve à son esprit, s'ajoutait, à l'insu de Richard, une autre curiosité, non moins âpre et non moins ardente, la curiosité de la vie, un dévorant désir d'apprendre et de connaître, une brûlante impatience de déchirer le voile qui le cachait encore les prochains horizons. Il y avait un an qu'il vivait ainsi dans cette fièvre curieuse et jalouse, lorsqu'il se décida, par une résolution désespérée, à pénétrer dans ce mystère qu'il avait creusé vainement jusqu'alors. Quelques jours avant sa mort, Madame de Montmeillan avait profité d'un reste de force expirante pour brûler un grand nombre de lettres et de papiers. À sa dernière heure, elle se rappela que le sacrifice n'était pas complet, et, sentant sa fin prochaine, elle confia à son fils le soin de livrer aux flammes une cassette qu'elle lui désigna. Richard omit au lendemain l'accomplissement de ce devoir, mais des jours s'écoulèrent sans qu'il y songeât, lorsqu'enfin il tint entre ses mains cette cassette prête à l'anéantir, il en fut empêché par une puissance invisible, et chaque fois qu'il y revint, la même force l'enchaîna. À la longue, cette cassette exerça sur lui d'étranges influences. On eût dit qu'il s'en échappait un fluide qui l'attirait, une voix qui le charmait, un regard qui le fascinait. C'était un charme, en effet, une fascination réelle. Il passait des heures entières à la couver d'un œil ardent et se surprenait parfois à promener sur elle une brûlante main. Un jour qu'il en trouva la clé, il la prit, la roula longtemps entre ses doigts par un mouvement convulsif, puis d'un pas brusque et résolu, il alla droit au coffret dont les cercles d'acier, reluisant au soleil, semblaient attirer fatalement comme la lumière attire les phalènes. Mais il s'arrêta court, lança la clé dans le parc et s'enfuit avec épouvante. Depuis ce jour, il avait évité d'entrer sous aucun prétexte dans cette chambre. Cependant, par une de ces nuits où la folie apparaît à la douleur qui veille, par une de ces insomnies où tout ce qui souffre en nous revêt la forme d'un spectre menaçant, où le sang se consume, où le cerveau s'égare, où l'âme se dévore, Richard se leva. Des éclairs sillonnaient le ciel, la foudre roulait au loin, les arbres du parc mugissaient comme des flots sur une grève. Il sortit. La pluie tombait en larges gouttes sur son front sans le rafraîchir. Il marchait, harcelé par ses pensées, comme un cerf par une meute. Il y avait juste un an que Madame de Beaumeillan avait succombé par une nuit pareille. De retour au château, Richard voulut revoir la chambre où cet infortuné s'était endormi du dernier sommeil. Il entra religieusement et promena autour de lui un lent et douloureux regard. En apercevant la cassette qui brillait dans un coin, à la lueur de la lampe, il tressaillit et prit Dieu à témoin que ce n'était pas elle qu'il cherchait. Pour se convaincre lui-même de la pureté de ses intentions, pour en finir avec ce trouble de son âme, il alluma un grand feu et jura de ne point s'éloigner avant d'avoir accompli la dernière volonté de sa mère. Pendant que le bois s'embrasait, il se jeta dans un fauteuil et se prit à repasser tous les détails de sa destinée avec une ardeur maladive qu'exaltait encore ce lamentable anniversaire. La tempête avait redoublé, la pluie fouettait les vitres, le tonnerre déchirait la nue. Richard sentait son cœur ni moins orageux ni moins sombre. Il prit le coffret, le déposa sur le marbre de la cheminée et demeura longtemps à le contempler en silence. Il se tenait debout, pâle, tremblant, défait, et nul n'aurait pu dire ce qui se passait en lui, tant était indéfinissable l'expression de ses yeux et de son visage. Enfin, par un mouvement de bête fauve qui s'élance sur sa proie, il saisit la cassette à deux mains, mais au lieu de la jeter aux flammes, il la brisa contre la plaque du foyer. Des papiers s'en échappèrent et, dispersés par la violence du choc, volèrent çà et là sur le parquet. Richard resta d'abord frappé de terreur. Il crut entendre la voix de sa mère qui s'élevait pour l'accuser et le maudire. Mais l'enfer était tout entier dans son sein. Il consomma la profanation. Ces lettres, toutes sans souscription, avaient été écrites par Madame de Beaumeillan durant les 2 années qui suivirent son dernier retour. C'étaient les épanchements de sa douleur, le récit jour par jour de sa lente agonie. Richard s'étendit sur le parquet et sa main prit au hasard au milieu des lettres éparses. La première qu'il ouvrit les résumait toutes. C'était aussi la première sans doute qu'avait écrite Madame de Beaumeillan après son retour, le premier cri de son désespoir, le premier sang de sa faiblesse. Richard, en dépliant les feuillets, sentit son cœur défaillir et son front se mouiller d'une sueur froide. On lui dit à maman qui va se convaincre de l'infidélité de sa maîtresse. Toutefois, en reconnaissant l'écriture de sa mère, ça et là effacée par les larmes, il fut saisi d'un sentiment de respect religieux, et tous les pudiques instincts de la jeunesse se réveillant en lui, il allait une fois encore résister aux démons qui le poussaient et sortir vainqueur de cette nouvelle épreuve, quand soudain un nom, ce nom maudit que la mourante avait exhalé dans son dernier soupir, lui sauta comme un aspic au visage. Toutes ses pieuses dispositions s'évanouirent et sa rage jalouse l'emporta. « Non, je ne vous ai pas quitté, comme vous l'avez dit, dans l'attendrissement de notre destinée. Gardez pour vous vos consolations hypocrites. Je ne vous ai pas quitté, moi, je suis parti. J'ai fui parce que vous m'avez chassé. Non, nous ne sommes pas séparés d'un commun accord, en vue de notre bonheur mutuel. Je ne me suis pas séparé de vous, moi. C'est vous qui m'avez rejeté. Non, ce lien ne s'est pas dénoué. C'est vous qui l'avez brisé. Lâche et misérable, vous n'avez même pas le courage de votre infamie. Bourreau, vous voulez qu'on vous plaigne à l'égal de la victime. Il faut vous savoir gré du sang que vous versez. Allez, je vous connais. Eh bien, vous êtes libre. Moi, je suis morte, vous m'avez tuée. Morte, entendez-vous. Et vous heureux, libre enfin, et libre heureux. Évariste, mon amour vous pesait donc bien. Il était donc pour vous un bien lourde tâche, un bien rude fardeau. Cet amour humble et résigné qui se tenait dans l'ombre et qui se dévouait en silence. Ce vous était donc un bien grand travail de vous laisser aimer, de vous sentir aimer. Vous n'avez même pas eu pour moi la pitié que vous ne craignez pas de réclamer pour vous. Vous m'avez immolé froidement à vos pieds, embrassant vos genoux et mouillant vos mains de mes larmes. Mais qu'avais-je fait pour me voir traité de la sorte? Oh, ce que tu avais fait, malheureuse, tu aimais, et l'ingrat n'aimait plus. Mais dites, fallait-il pour cela vous montrer si dur et si cruel? Ne pouviez-vous attendre quelques jours, ou du moins laisser tomber quelques paroles affectueuses, afin que ce cœur mortellement blessé pût en vivre jusqu'à sa dernière heure? Vous ne m'aimiez plus, hélas, mais si vous m'avez aimé, qu'était-ce donc que cet amour qui, en se retirant, n'a déposé en vous que le dédain, le mépris et l'injure? Mais ce que tu ne m'as jamais aimé, va. Non, durant le siècle de douleur qu'a duré cette liaison fatale, je n'ai pas cru un seul instant à ton amour, pas un instant. J'attendais, j'espérais, j'essayais, je cherchais, mais je ne croyais pas. Ainsi donc, voilà le prix de tant d'efforts et de sacrifices. Ne vous y trompez pas, je suis morte. Rien, plus rien. Vous avez clos ma vie. Je n'étais que par vous et pour vous. Il vous aurait suffi d'un peu de bonté pour m'amener sans effort au seuil des affections paisibles, pour m'aider à franchir sans déchirement le passage des illusions à la réalité. Peut-être n'étais-je pas tout à fait indigne de quelques soins et de quelques ménagements. Peut-être avais-je quelque droit d'espérer que vous m'ensevelieriez doucement dans votre tendresse. Oui, un peu de bonté suffisait. Vous n'avez pas voulu. C'était pourtant une œuvre sainte, une entreprise qui pouvait tenter un cœur généreux. Avec un peu de patience, vous pouviez sauver une âme. Vous n'avez pas voulu. Qu'elle s'éteigne donc, cette âme dédaignée, qui n'a plus rien à faire ici-bas. Cela continuait ainsi, passant tour à tour des reproches au regret, de la tendresse à la colère, de l'orgueil outragé à l'humilité suppliante, éternelle plainte de l'amour délaissé. Seulement la mort de la victime donnait à celle-ci un caractère terrible et solennel, qui eût touché les plus indifférents et imposé aux plus sceptiques. Cependant, pour un esprit à la fois expérimenté et désintéressé, ce n'eût été à vrai dire qu'un poème assez vulgaire. Mais pour Richard, que ses instincts seuls avaient éclairé jusqu'alors, pour ce jeune homme, ne se sachant possiblement rien de la vie, venait d'en lire tout à coup le chapitre le plus lamentable, écrit avec les pleurs et le sang de sa mère. Ce fut un coup de foudre qui le frappa en l'illuminant, et cette fois enfin il se trouva face à face avec sa douleur. « Ainsi je n'étais rien pour toi, » murmura-t-il lentement d'un air sombre. « Ainsi pas un mot pour ton fils. Ton âme dédaignée n'avait rien à faire ici-bas. Tu n'as pas cru devoir pour ton enfant te donner la peine de vivre. Ton fils qui t'adorait et ton enfant qui ne vivait qu'en toi. Mais quel égarement fut le vôtre ? « Mais toi, qui donc es-tu ? » s'écria-t-il, l'œil en feu et le bras menaçant. « Toi qui m'as volé l'amour, le bonheur et la vie de ma mère. Toi qu'elle implorait à genoux et qui, sans pitié, voyait couler ses larmes. Elle t'aimait et tu l'as chassée. Elle t'aimait et tu l'as tuée. Et c'est toi pourtant qu'à sa dernière heure elle appelait encore. Sur ses lèvres près de se fermer, je n'ai recueilli que ton nom. » Dans son cœur près de se glacer, je ne surpris que ton image. Il marchait à grands pas dans la chambre, se frappant le front et pressant sa poitrine avec rage. L'attrait de la souffrance le ramena bientôt aux lettres dispersées. Il les prit une à une et les lut d'un regard tantôt enflammé de colère, tantôt mouillé d'attendrissement. C'était dans tout le même chant plaintif et désolé, dans toute la révolte et le désespoir d'une âme qui n'a vu dans la vie que l'amour et qui sent que l'amour l'abandonne. Dans tout, surtout, le naïf et monstrueux égoïsme de la douleur et de la passion. Chose cruelle à dire, dans toutes ces lettres écrites par Madame de Beaumeillan, ne se trouvait pas une ligne qui révélât l'existence de Richard. L'absence du sentiment maternel il pesait comme une atmosphère orageuse. L'amante avait étouffé la mère. Une fois, cependant, une seule, Madame de Beauméant, dans l'épanchement de ses regrets, s'était rappelée qu'elle avait un fils. « Vous ne savez pas le mal que vous avez fait. Non, vous ne le savez pas, Évariste, et ce sera votre seule excuse devant Dieu, car Dieu vous jugera. Il ne vous demandera compte ni de ma vie, ni de mon bonheur. Souffrir et mourir, n'est-ce pas la commune loi ? Qu'importe que ses yeux, avant de se fermer, se soient usés dans les pleurs. Qu'importe que ce corps s'affaisse avant le temps et retourne à la terre. Mais ce doit être devant Dieu une chose grave que la perte d'une âme. Et vous avez tué la mienne. Oui, cette âme qui réfléchissait comme un lac limpide toutes les beautés de la nature, qui vibrait comme un divin instrument à toutes les harmonies de la création. Vous l'avez à jamais ternie, vous l'avez brisée, vous l'avez tuée, enfin. Tout est mort. Le soleil s'est éteint dans le ciel. L'éternel hiver règne autour de moi. Tout m'est odieux et tout m'importune, ou plutôt tout m'est indifférent. Je ne puis me rattacher à rien. Je ne compte plus les jours, il y en a même où je ne souffre pas. Vous avez fait en moi le silence, la nuit, le néant du tombeau. Vous qui nous délaissez, vous glorifiez de nos larmes. Ce n'est pas vous, cruel, que nous pleurons. Vous ne valez pas un regret. Mais notre cœur que vous avez flétri, mais la meilleure portion de nous-mêmes que nous laissons à votre amour, comme les troupeaux leur laine au buisson. Te le dirai-je? Oserais-je le dire sans expirer de honte? Tu sais bien, mon fils, Évariste, cet enfant négligé pour toi. Il est là, près de moi, tendre, soumis, discret, sacrifiant les ardeurs de son âge aux soins d'une ingrate douleur. Il est là, et pour que rien ne manquât au crime de sa mère, Dieu lui a donné la grâce, l'intelligence et la bonté. Quelle femme ne serait heureuse et fière de pouvoir l'appeler son fils? Eh bien, sa présence m'irrite, sa tendresse me gêne, et je crois, pardonnez-moi, Seigneur, je crois que je ne l'aime pas. » À ces mots, Richard froissa la lettre entre ses mains et la jeta loin de lui sans avoir achevé de la lire. Longtemps il laissa déborder l'amertume de ses réflexions. Longtemps il éclata en sanglots, mais en imprécations jalouses. Puis en songeant à ce que l'infortuné avait dû souffrir pour en venir à cette extrémité, sa colère s'abattit une fois encore, une pluie de larmes, et il lui pardonna dans son cœur. Mais l'autre, il ne pardonnait pas, et sa haine se nourrissait du sang de son amour. Plus désintéressé, ainsi que nous le disions tout à l'heure, avec quelque intelligence des choses, de la passion, peut-être ce jeune homme, eut-il enveloppé ses deux destinées dans un même sentiment attendri. Mais Richard était loin des conditions essentielles à l'indulgence. Il ignorait à quels chocs imprévus, à quels principes dissolvants, à quelles lois inévitables est soumise l'union des âmes. Il avait toute la foi, toute la candeur, toutes les naïves indignations de son âge. Et quand même Madame de Beauméant n'eût été pour lui qu'une étrangère, il n'en aurait pas moins senti son sang révolté se soulever contre cet homme. Tout l'excitait, tout l'armait contre lui. Il n'était pas une de ces lettres où Madame de Beauméant ne passa en moins de quelques pages, parfois en moins de quelques lignes, de l'adoration à l'insulte et de l'emportement à la prière. Tour à tour suppliante et terrible, se traînant au pied de l'ingrat ou lui jetant l'invective au visage, et suivant avec ses lèvres la boue des injures, puis effaçant bientôt la trace des baisers sous de nouveaux outrages. Richard ne savait pas qu'à l'excès de langage, la passion aux abois pousse ses faibles âmes, ni quel affreux besoin est en elles d'avilir leur amour, comme si en le flétrissant, elles espéraient en guérir. Il dut prendre au sérieux, dans leur sens littéral, tous ces outrages et tous ces blasphèmes, et conclure naturellement que cet Évariste était un infâme. Et pourtant, dans les lettres de Madame de Beaumeillan, ce n'étaient pas les expressions inspirées par le mépris et par la colère qui irritaient le plus cet enfant, mais le langage tendre et passionné, le refrain amoureux et doucement plaintif qui se mêlait incessamment aux cris de la passion blessée. Il ne se rendait pas compte des sentiments qui l'agitaient alors, mais à son insu, c'était moins au bourreau qu'à l'amant que s'adressait sa haine, et la jalousie entrait au moins pour moitié dans son désespoir. Voici quelques fragments de la lettre que Madame de Beaumeillan avait écrite sans doute à la veille d'expirer. « Depuis 2 ans, je vous attends tous les jours et je vous appelle, vous là-bas. Vous n'êtes pas venu, vous, unique ami de mon désespoir. Sois béni, c'est Dieu qui t'envoie. Dieu a eu pitié de ma peine. Évariste, je vais mourir. Je vous l'avais dit, il le fallait d'ailleurs. Vivre sans vous n'était pas... Vous êtes infidèle, mon ami, je ne vous en veux pas. Il m'est doux de mourir de mon amour, puisque vous n'avez pas voulu me laisser vivre du vôtre. Je n'ai qu'un regret à cette heure, c'est que ma mort ne trouble votre vie et ne vous soit une punition trop cruelle. Qu'est-ce, après tout, une âme délaissée qui s'en va? Et pourtant, en songeant combien vous eût fallu peu d'efforts pour la rendre heureuse, je ne puis m'empêcher de vous en vouloir un peu. Pardonnez à ces derniers regrets. Je souhaite bien ardemment que vous puissiez ignorer toujours ma fin prématurée. Je vous garde ici dans mon cœur. Ces lignes n'iront pas jusqu'à vous. Mais si jamais vous en étiez instruit, je vous supplie de ne pas en avoir trop de remords. Allez, tout cela est bien peu de chose. Je vous le demande, pour qui et pourquoi vivrai-je? Il est bien décidé, n'est-ce pas, que vous ne voulez plus de moi? Inutile à votre bonheur, que puis-je espérer sur la terre? J'ai porté 2 ans le deuil de votre amour. Je n'ai point failli à ma douleur. Maintenant, je puis partir. Dieu est bon. Je suis calme, résignée, presque joyeuse. Il est pourtant des choses auxquelles ma pensée s'arrête malgré moi. Tenez par exemple, il est certain que mon heure approche. Demain, sans doute, j'aurai cessé d'exister. La fièvre a brûlé mes os. Mon sang épuisé n'arrivera bientôt plus à mon cœur. Ma vue se trouble, tout mon être s'affaisse. La main qui vous écrit est tremblante et déjà glacée. Eh bien, vous pourriez d'un seul mot, ce que Dieu ne pourrait pas sans vous, tromper la mort et me rendre la vie. Vivre, je pourrais vivre encore. Oh, la vie, Évariste, le soleil et l'azur des cieux, les nuits étoilées et sereines, le parfum des fleurs et l'ombrage des bois, tous ces biens me seraient rendus. Un mot de vous suffirait pour cela, et ce mot, vous ne le direz pas. Il n'y faut plus songer. Que votre volonté s'accomplisse. Vous aurez été inflexible comme le destin. Oui, vous avez été cruel. Je ne crois pas que beaucoup d'hommes aient été pour de pauvres femmes aussi cruels que vous l'avez été pour cette pauvre abandonnée. Mais où donc avez-vous pris ce féroce courage? Saviez-vous, ami, qu'on en meurt? Ah, j'aurais bien voulu vous voir une fois encore pour vous demander pardon du mal que j'ai pu vous faire. Si vous avez souffert par moi, croyez que j'en suis innocente. Si j'ai péché vis-à-vis de vous, ça n'a jamais été, je vous le jure, que par excès de tendresse. Je m'en irais tout à fait heureuse si j'étais sûre de vous laisser de doux souvenirs et cette conviction que je vous ai beaucoup aimé. et sur un feuillet détaché, ces mots à peine lisibles. Un dernier adieu, un adieu éternel. Où êtes-vous? Que faites-vous? Je viens de voir à travers les arbres un cavalier passer au galop sur la route. Oh mon Dieu, si c'était vous! Il m'a semblé vous reconnaître. Peut-être est-ce vous, vous êtes si bon. Quelque chose vous aura crié que j'allais mourir et vous serez parti, et voilà que vous accourez. Seigneur, faites que ce soit lui, que je le voie une fois encore. Et moi, ma mère, et moi! S'écria le malheureux jeune homme. Il ne put en dire davantage. Il s'était jeté le visage contre le parquet. Il demeura longtemps ainsi, anéanti dans sa douleur. Cependant, l'aube blanchissait l'horizon. Appuyé sur le balcon de la fenêtre ouverte, il se prit à contempler d'un regard distrait les nuées que le vent éparpillait dans le bleu du ciel. L'orage s'était dissipé. De molles vapeurs se détachaient comme des flocons de ouate du flanc des coteaux. Les oiseaux gazouillaient sous la feuillée humide. Le parc étincelait comme un vaste écrin au premier rayon du soleil. Richard s'arracha brusquement à ce réveil des joies de la nature. Le foyer brûlait encore. Il y jeta une à une les lettres qu'il venait de lire. Le feu les dévora toutes excepté la dernière que le jeune homme voulut garder. Il avait trouvé au fond de la cassette plusieurs enveloppes vides à l'adresse de Madame de Beaumeillan, relique des temps heureux, conservée là sans doute par une de ces puérilités de l'amour qui donnent du prix aux moindres choses qui nous viennent de l'être aimé. Toutes les suscriptions étaient de la même écriture. Tous les cachets étaient intacts et portaient la même empreinte armoriée. Il mit de côté une de ses enveloppes et livra les autres aux flammes. Ses soins accomplis, il pardonna une fois encore à sa mère, puis, s'adressant par la pensée à l'homme qui avait fait le mal, « Où que tu sois, dit-il, et qui que tu sois, oh, je te trouverai. Le monde est grand, mais la vie est longue. »